Soft Power. Abonnez-vous au podcast sur le site franceculture.fr.
Et tout de suite, c'est l'heure du club de la presse numérique de Soft Power, sans Frédéric Martel qui nous a quittés un peu plus tôt que d'habitude, mais en présence de deux habitués, Emmanuel Paquette de L'Express, bonsoir.
Bonsoir Zoé.
Et Amaël Guiton de Libération.
Bonsoir.
Alors ce soir, nous parlons de Google. Google, le géant du web, principalement connu pour son moteur de recherche, mais qui, on le sait, investit depuis plusieurs années dans différentes activités. Et cette semaine, Google le concerne à deux titres. L'entreprise déjà a annoncé qu'elle allait commercialiser une console de jeu, pas physique, hébergée dans le cloud. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une console et d'investir dedans chez vous pour jouer. Et puis par ailleurs, c'est une autre information de taille, Google a écopé d'une amende de 1,5 milliard d'euros pour abus de position dominante sur le marché de la publicité contextuelle. Alors, où va Google? On se pose la question avec vous, tous les deux, Emmaël et Emmanuel. Alors déjà, peut-être, est-ce qu'on peut commencer par parler de cette fameuse console qui s'appelle donc Stadia et qui est présentée comme un service de jeux vidéo à la demande? Concrètement, pour essayer de comprendre ce que c'est, comment ça marche peut-être, Emmanuel Paquette?
En fait, c'est assez simple. C'est un équivalent de Netflix pour le jeu vidéo. C'est-à-dire, on appelle ça du cloud gaming. C'est-à-dire qu'en réalité, le jeu, vous ne le possédez pas. Il n'y a pas de DVD physique entre vos mains. Il est logé simplement sur des serveurs distants de Google, sur lesquels vous pouvez accéder à peu près depuis, normalement, n'importe quel terminal. Et à partir de là, de pouvoir jouer avec n'importe qui. Alors, l'idée, c'est de mettre un abonnement en place. Alors, on n'a pas encore le tarif. Google a dit qu'il serait dévoilé là, dans les mois qui viennent, durant l'été, avec un lancement aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, et avec un catalogue pareil qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc il va falloir voir s'il y a des gros titres, de gros éditeurs, ce qu'on appelle des triple A. Donc ce sont les gros titres qui aujourd'hui drainent la majorité des plus gros joueurs. Donc là, c'est encore une question que tout le monde se pose, à savoir la profondeur du catalogue de Google, et puis l'accessibilité en termes de prix et puis en termes de puissance, parce que comme vous l'aviez dit, on ne sait pas exactement ce dont il s'agit, c'est-à-dire est-ce qu'il faudra pas quand même acheter au moins un minimum de matériel pour pouvoir s'y connecter? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'il faudra pas avoir un ordinateur et avec une réelle puissance de l'ordinateur, notamment avec une très très bonne carte graphique? Donc ce qui pourrait ça un petit peu tempérer un petit peu tout ce qu'on peut voir autour de ce nouveau service et toutes les envies que ça peut générer.
Alors justement, peut-être Amaël Guiton, pourquoi est-ce que Google annonce ça maintenant alors qu'on a finalement si peu d'informations?
De toute façon, ils ont quand même commencé à faire des tests. Je crois que c'est depuis l'automne 2018. Il y a possibilité pour des joueurs américains de jouer à Assassin's Creed en fait sur ce modèle-là.
Assassin's Creed qui est un
gros jeu, gros pour jeu. Le coup. Et je pense qu'effectivement, de toute façon, ils ont déjà donné quand même quelques signes de leur volonté de se positionner là-dessus. C'est vrai que pour le moment, c'est encore assez flou. En tout cas, la promesse, c'est quand même l'idée de pouvoir jouer effectivement à des jeux très élaborés depuis à peu près n'importe quel terminal, donc smartphone, ordinateur, tablette ou smart TV, si j'ai bien compris. Alors ils ont annoncé qu'ils allaient aussi commercialiser une manette, mais il y a quand même l'idée d'abaisser énormément le coût d'entrée dans l'univers de ce type de jeu vidéo, avec quand même un peu, ce qu'on sent venir, c'est l'idée à la fin de plus de consoles du tout, in fine. Alors pour le moment, c'est vrai que c'est ce que disait Emmanuel, ça reste assez flou à la fois sur le modèle économique, sur le catalogue. Ça pose aussi la question de la connectivité tout de même, parce que même si l'idée au fond est de mettre la puissance de calcul sur des serveurs distants pour que tout le monde puisse, le plus de gens possible puisse jouer à distance, a priori, dans des zones à faible connectivité, ça risque quand même d'être compliqué. Mais c'est ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est que ils sont pas tout seuls sur cette histoire-là. Je crois qu'il y a aussi Microsoft qui a des choses dans les tuyaux. Mais c'est vraiment l'idée de remettre la puissance de calcul à la périphérie, qui est pas du tout le modèle de départ de l'informatique individuelle, où justement on mettait de la puissance de calcul dans les mains de tout le monde. Et qui n'est pas non plus, entre guillemets, le modèle un peu traditionnel de l'Internet, dont je trouve que même philosophiquement, ça pose des vraies questions.
C'est un changement de
paradigme. Ouais, moi j'ai un collègue à Libération qui est persuadé que c'est d'une certaine manière, ça devient de la minitélisation du jeu vidéo aussi, cette affaire-là.
Alors justement, vous avez dit peut-être à terme la fin de la console. Est-ce que par exemple, les acteurs traditionnels, PlayStation, Xbox, etc., ont des raisons de s'inquiéter? Puis il y a quand même un confort de jeu auquel ce qu'on appelle les gamers tiennent, ceux qui jouent beaucoup aux jeux vidéo. Donc, est-ce que ça pourrait être la fin de ces acteurs traditionnels, donc les forcer à s'adapter? Et puis, peut-être aussi, tout simplement, qui veut toucher Google avec ça? Des gens qui jouent pas encore? Des gens qui pourraient jouer? Des gens qui jouent?
Alors pour la première question, en fait, c'est déjà c'est pas une tentative nouvelle. Hein, ça existe depuis maintenant 2010. Il y a eu une grande start-up qui s'appelait OnLive qui a été créée aux États-Unis, dont le pari justement était de tuer tout ce qui était console de jeu pour remplacer justement le jeu directement via un accès Internet et un abonnement mensuel sur lequel on pouvait payer et puis accéder à des gros titres. Pour le coup, à l'époque, c'était il y a vraiment des grands titres de grands éditeurs, les Américains, notamment Electronic Arts, Activision et d'autres étaient présents. OnLive aujourd'hui n'existe plus. Voilà, la société a fait faillite. Les brevets ont été rachetés par Sony en 2015. Il y a eu une autre grosse tentative d'une société qui s'appelait Gaikai, qui a très bien fonctionné à un certain moment. Et pareil, qui a été rachetée par Sony et qui a été intégrée aujourd'hui dans la PlayStation, puisque pour les utilisateurs de PlayStation, il y a un service qui s'appelle PlayStation Now, qui permet justement de s'abonner et d'accéder à du jeu. Alors c'est plutôt du bas de catalogue, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des jeux qui sont assez anciens, justement pour pas tuer le marché des DVD à 70€ qu'on peut acheter dans le commerce. Donc l'idée, c'est de créer un nouveau marché avec les anciens jeux aujourd'hui. Bah soit vous les achetez un peu en deuxième main ou troisième main à des prix qui sont relativement accessibles, ou vous pouvez vous abonner à un service comme celui-là. Donc voilà, c'est pas nouveau. Il y a eu beaucoup de tentatives aussi en 2012 en France avec les opérateurs télécoms, notamment Bouygues Télécom et SFR, qui avaient intégré dans leur box des systèmes de location de jeux à distance, notamment justement en signant des accords avec des grandes plateformes de distribution de jeux. Ça a été plutôt un échec. Bouygues Télécom a fermé son service, SFR également. Donc aujourd'hui, on voit une nouvelle tentative de la part de géants d'Internet, du coup, puisqu'on a parlé, comme le disait Amaël, on a parlé de Google, on parle de Microsoft, on parle d'Amazon aussi. Donc on va voir ces gens-là, voir s'ils arrivent à trouver une place là où les opérateurs télécoms n'ont pas réussi à percer.
Amaël Guiton, justement, oui, sur le fait que ce soit des acteurs de ce type-là qui investissent. Aujourd'hui, on a vu que ça a pas très bien marché, et surtout qui y vise.
Alors Google, comme d'habitude, il va dans l'effet d'annonce et avec énormément d'ambition, parce que je crois que leur communication, c'est de dire ils visent un public potentiel de 2 milliards de joueurs, donc y compris effectivement les gens qui n'ont pas forcément de console, qui comptent pas forcément investir dans une console de jeu, mais qui peuvent être, je sais pas, comme moi par exemple, qui peuvent de temps en temps jouer sur leur ordinateur, et du coup effectivement ça peut créer un public au départ peut-être plus distant,
plus éloigné
vis-à-vis de ces entre guillemets grosses productions, mais qui pourrait rentrer dedans par ce biais-là. Ce qui est alors sur les effectivement les acteurs traditionnels, il y a eu un effet assez immédiat, hein, c'est que les cours des actions Nintendo et Sony ont accusé une chute le lendemain de l'annonce. Donc on voit bien quand même que tout ça. Bon, alors après les marchés peuvent aussi être assez irrationnels, mais voilà, il y a quand même aussi cet aspect-là. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir comment finalement le modèle initié avec Spotify, Deezer, etc. dans la musique, c'est d'abord répliqué effectivement dans l'audiovisuel avec des plateformes comme Netflix, et commence peu à peu à grignoter d'autres secteurs, c'est-à-dire un modèle qui n'est plus du tout celui de l'achat, mais clairement qui est celui de la location. Et ça effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui ça tend à s'étendre, et c'est pas très étonnant pour le coup que ce soit les grands acteurs du numérique qui veulent se positionner sur ce marché-là en n'ayant pas entre guillemets à défendre leur biftec, qui aille dans cette direction, même si, bon, pour le coup, Microsoft a aussi manifestement décidé de prendre le train en marche et a annoncé qu'ils allaient faire, qu'ils allaient annoncer justement des choses de cet ordre-là assez prochainement.
Et alors justement, peut-être si on essaye de pousser un peu la question un peu plus loin, comment est-ce qu'on peut imaginer que les fameux acteurs, les gens qui produisent des jeux vidéo, vont répondre à cette demande de Google ? On a peu d'informations donc sur le modèle économique. Il faudrait qu'ils disposent un catalogue. Est-ce que les gens qui produisent des jeux aujourd'hui ont intérêt à être présents sur ce catalogue ?
Normalement, ceux qui vendent encore des gros titres, ce qu'on appelait les AAA, n'ont pas intérêt, puisque aujourd'hui un DVD se vend à 70€ dans le commerce, donc 70€ qui n'arrivent pas directement dans la poche de l'éditeur, hein, puisqu'il y a des intermédiaires, il y a le revendeur, etc. Mais du coup, une valeur faciale qui est extrêmement importante. Donc détruire ça pour un abonnement à, disons, 9,99€ par mois, un peu comme l'équivalent de Netflix, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il va falloir après le répartir avec tous les éditeurs qui seront présents sur la plateforme. Donc, sauf, encore une fois, si c'est du fond de catalogue, donc des anciens titres et pas les nouveaux, comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs sur Netflix, hein, puisqu'on n'a pas des choses récentes sur Netflix, sauf les créations de Netflix en tant que telles, on n'a que du fond de catalogue de séries et de films. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est surtout le modèle économique de Google reste aujourd'hui à 90%, 95% la publicité. Et donc, dans l'ordre de la de la présentation du service, l'idée c'était de montrer que tout ça était activable via YouTube. Donc on pouvait notamment voir quelqu'un jouer sur YouTube. Donc l'idée c'est de créer aussi des communautés de joueurs qui se regardent jouer avec de la publicité contextuelle à côté. On y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie hein, sur cette publicité contextuelle, donc qui est liée à la partie de jeu vidéo qu'on peut voir. Et donc pour Google, l'idée c'est de créer une communauté autour de YouTube, pas forcément que des joueurs, mais aussi des spectateurs. Qui dit spectateur dit publicité, qui dit spectateur dit souvent aussi droit, puisque derrière, sur les jeux massivement en ligne, on peut aujourd'hui accéder on peut voir des retransmissions de grands jeux vidéo avec des équipes de professionnels, et pour ça, eh ben, on est prêt à payer, ou en tout cas, à avoir de la publicité pendant qu'on regarde ce type de jeu.
On va parler évidemment tout de suite de publicité contextuelle et de cette amende donc que s'est pris Google, mais une dernière question quand même qui se pose au regard du fait de ce que vous disiez tout à l'heure à Maëlle, on va vers un modèle de plus en plus de Netflix, et là pour une expérience qui serait plutôt correcte pour pouvoir jouer en ligne dans le cloud, eh ben on va avoir une console qui pourrait consommer énormément de bandes passantes, on est d'accord, comme c'est déjà le cas pour des sites de streaming. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, et ça fait partie des menaces qui planent, on est des fournisseurs d'accès qui pourraient limiter des connexions de certains internautes si on va vers un modèle de plus en plus streamé comme ça, Maël Guiton?
Ah bah de toute façon, ça c'est l'éternel débat sur la neutralité du net. Hein. On a vu que ça avait fait l'objet de batailles très féroces aux États-Unis, qui finalement s'était réglé sous Obama en faveur de la neutralité du net, puisque c'était rentré un peu dans le dur du droit. Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, on voit que ça essaye de grignoter, etc. On sait bien aussi d'ailleurs que en France comme en Europe, hein, les opérateurs eux-mêmes, essaient plutôt de faire passer l'idée que bah oui, ça serait bien de pouvoir moduler aussi le trafic, enfin des abonnements en fonction du trafic, enfin pour pouvoir assumer les coûts d'infrastructure, enfin en tout cas c'est le discours officiel. Donc oui, je pense que ça va participer sans doute à la vie de ce débat, mais de la même manière effectivement que l'explosion de la vidéo l'a aussi beaucoup fait évoluer.
Renforcer effectivement. Alors autre actualité de Google, mais qui en fait finalement rejoint celle-ci, qui nous pousse à nous demander pourquoi Google agit comme ça. Cette semaine, Bruxelles a infligé une amende, donc 1,5 milliard en fait de dollars à Google pour un système de publicité contextuelle. Vous allez nous expliquer exactement comment ça marche, qui s'appelle AdSense for Search et qui est en situation d'abus de position dominante. Alors qu'est-ce que c'est que cette amende et est-ce que c'est significatif pour Google? Parce qu'on est quand même pour une fois sur des chiffres qui sont très importants. On dit souvent que l'Europe fait des amendes symboliques, là c'est pas tout à fait le cas, Emmanuel Paquette.
Oui, alors symbolique, ça dépend pour qui. Là, un milliard quatre, effectivement, ça peut paraître énorme. C'est vrai que quand on regarde Google et son chiffre d'affaires qui est de 136 milliards de dollars,
c'est pas si énorme.
Voilà, c'est 0,1%, donc c'est quasiment rien du tout en fait pour Google. Mais l'impact est ailleurs. L'impact, c'est un impact symbolique sur la puissance de cette société et sur le traitement qu'elle peut avoir avec des sites tiers, puisqu'en l'occurrence, donc là, on parle de publicité qui est liée au search. Donc l'idée, c'est que des sites tiers, n'importe lesquels aujourd'hui, peuvent intégrer des moteurs de recherche pour pouvoir faire des recherches à l'intérieur d'un site internet. Et là, Google propose un outil qui permet, en fonction des requêtes qui sont réalisées sur un site internet, d'afficher des petites informations, des petits liens, des petits liens sponsorisés dans le site internet d'un éditeur, sur lequel il y a un annonceur qui a payé pour être référencé. Et si on clique dessus, si un internaute clique dessus, et ben il y a un partage de revenus publicitaires entre Google d'un côté et le site qui a intégré ces annonces de l'autre côté. Donc ça, c'est la base de ce qu'on appelle le AdSense for Search, puisqu'il y a un autre AdSense for Content, par exemple. Mais là, c'est AdSense for Search de chez Google.
Pour contenu, ouais.
Voilà.
Et alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que Google, quand il propose ça, impose au site de ne pas avoir d'autres moteurs de recherche intégrés.
Bah, en fait, de ce que j'ai compris, il y a eu plus ou moins deux phases. C'est-à-dire qu'entre 2006 et 2009, il y avait effectivement une clause d'exclusivité. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, il fallait pas utiliser d'autres, enfin, les utilisateurs de AdSense for Search ne devaient pas utiliser d'autres services de ce type. Et ensuite, ça s'est assoupli parce qu'ils ont dû se dire quand même qu'effectivement ça pouvait leur créer des problèmes en termes de concurrence. Ils ont imposé un minimum de liens AdSense à afficher en fait sur les pages web. Et c'est là effectivement, enfin c'est sur l'ensemble de la séquence que la Commission européenne a tiqué. Alors c'est des clauses qui ont disparu en 2016. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant, hein, c'est que bon évidemment du côté de Google leur communication vise surtout à dire que mais pas du tout, ils font des efforts, etc. Mmh. Pour le coup, on peut considérer que la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui pour le coup est vraiment en pointe hein, sur ces affaires-là, quand elle dit que les amendes successives ont poussé Google à évoluer, c'est très manifestement le cas, parce que c'est pas la première, ça faut peut-être le rappeler.
Il y en a d'autres qui doivent arriver dans pas longtemps, c'est ça ?
Et puis il y en a surtout eu avant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu 2,42 milliards d'euros en juin 2017. Là, c'était à propos de Google Shopping et des pratiques effectivement anticoncurrentielles de Google Shopping. Et en juillet 2018, une amende encore plus forte, qui pour le coup doit être le record hein, à l'heure actuelle, qui était de 4,34 milliards d'euros pour en gros avoir favorisé dans Android, qui est donc son système d'exploitation mobile, son outil de recherche et son navigateur Google Chrome.
Et alors peut-être du coup, vu qu'il nous reste 2 minutes pour clore ce débat, il y a une réaction plutôt mesurée de Google. Et comment est-ce qu'on peut lire cette amende et aussi ce que ça peut susciter dans la politique de Google? Est-ce qu'on peut se dire que l'Union européenne va continuer à faire des amendes? Est-ce que Google réagit véritablement? Et comment est-ce qu'on peut aussi lire cet investissement, par exemple, dans cette histoire de console, dans ce climat-là, Emmanuel Paquette, peut-être?
Deux réponses. La première, c'est que AdSense, c'est plus rien, en fait, chez Google. Ça représente, en 2016, c'était 17% du chiffre d'affaires. En 2017, c'était 15,9%. Et en 2018, c'est 14,7%. Donc AdSense, c'est en train de disparaître en termes d'activité. Donc céder sur de ce point de vue-là pour Google, c'est un combat déjà du passé. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi de dire que la Commission européenne réagit peut-être bien, mais trop tard, et qu'au niveau technologie, les choses évoluent beaucoup trop vite, donc le temps qu'une décision soit prise, la technologie et le marché a déjà changé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut bien voir qu'on arrive à la fin de la mandature de Margrethe Vestager, puisque les élections sont au mois de mai. Elle vise quand même la présidence de la Commission européenne, donc infliger des amendes comme ça, c'est aussi se mettre en avant au niveau politique, donc c'est très important pour elle, pour avoir des chances, surtout que son pays, aujourd'hui le Danemark, ne la soutient pas, ou peu, donc c'est un moyen pour elle de faire pression pour essayer de candidater et devenir la prochaine présidente.
En un mot, Maëlle Guiton.
Oui, il y a aussi pas mal d'observateurs qui s'inquiètent justement de l'arrivée de Google dans le jeu vidéo en disant cette entreprise qui a déjà une position ultra dominante et notamment qui est assise sur un gisement énorme de données personnelles, mais encore, arrive encore dans un nouveau secteur avec le risque effectivement de
bousculer,
de peser dessus. Et du coup, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que la loi et les sanctions
sont toujours en retard.
Sont entre guillemets toujours un train de retard par rapport à ce type de choses. Ouais.
Merci à tous les deux, Emmanuel Paquette de l'Express, Samaël Guiton de Libération. C'est la fin de Softpower, on en reste là pour ce soir. La semaine prochaine, on retrouve Frédéric Martel avec un sujet, comment se soigner sur Internet sans devenir hypochondriaque. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Bon week-end, n'oublie pas que vous pouvez podcaster Softpower sur l'application iTunes, le site de France Culture ou n'importe quelle application podcast de votre smartphone.